Il est midi, c'est l'heure de connecter votre cerveau à l'Hippocampe, présenté par Fabien Olicard.
Bonjour à tous et bienvenue sur l'Hippocampe, le podcast où votre cerveau trempe. Enregistrement tous les jours à midi sur Storm où vous pouvez réagir dans le chat. Bonjour aux premiers connectés, Wimossa, Cassandre, Emeline, Valentin, Pascal, Antoine, etc., etc. Et en replay vers 13h sur toutes les plateformes de podcast habituelles où je vous invite à vous abonner, à laisser votre plus belle note, y compris sur Apple Podcast où je suis pas très bien référencé. Allez lâcher une note et un commentaire, ça aidera beaucoup. C'est ce qui fait vivre ce podcast. Au sommaire aujourd'hui, les questions ne restent pas sans réponse. Ensuite, le sujet du jour, c'est un nouveau format, c'est le format rendez-vous et nous aurons rendez-vous avec Loïc Lagarde de l'école du cinéma au freelance. Voilà, on va découvrir ce que je voulais dire derrière ce titre, mais moi je sais pas trop. Et on terminera par que dit le chat.
Rattrapage, vos questions ne sont pas sans réponse.
Les questions ne restent pas sans réponse. Je prends les questions de la veille qui ont été mises sur Storm depuis dans l'entre-deux podcast et sur SoundCloud également. C'est là où je vais piquer vos questions. Eh bien, pour la première fois, vous avez été peu bavard puisque j'ai juste une question sur Storm et une seule sur SoundCloud. Sur Storm, c'est John qui me dit « Est-ce que tu vas continuer la chronique aller au bout d'un gros projet ?» Eh bien oui, si vous en êtes plusieurs à faire la demande, avec grand plaisir pour aller un peu plus loin dans ce sujet-là. Et Ronan sur SoundCloud qui dit « Salut Fabien, alors absolument aucun rapport avec le sujet du podcast, mais est-ce qu'il y a des erreurs dans Cérébrum, par exemple, sur lesquels âge a ? En tout cas, un grand merci pour tes podcasts enrichissants. Merci à toi, Ronan, de suivre. Et la réponse est non, il n'y a pas d'erreur dans les énigmes de Cérébrum. C'est mon PDF sur le site brainstorm.fr ou .com, je ne sais plus, les deux fonctionnent. Non, il n'y a pas d'erreur, les erreurs, elles ont été corrigées dans l'autre version. Et c'est tout pour les questions aujourd'hui, c'était très rapide.
Rattrapage, vos questions ne sont pas sans réponse.
Sujet du jour, donc aujourd'hui, rendez-vous numéro 1. On a rendez-vous avec Loïc Lagarde. Loïc qui travaille avec moi. C'est pour ça que c'était pratique de l'avoir en première invité. Ça faisait plaisir de t'avoir. Est-ce que tu peux te présenter déjà en quelques mots ? Qui es-tu ? Quelles sont tes compétences ? Pas forcément le travail qu'on fait ensemble, peu importe, mais c'est quoi tes compétences ? Qu'est-ce que tu fais dans la vie ? D'où tu viens ? Quel âge tu as ? Tout ça.
Tout ça. Eh bien, moi, je m'appelle donc Loïc Lagarde. Je suis réalisateur, cadreur, monteur. C'est-à-dire, pour ceux que ça ne parle pas, je travaille dans la vidéo. C'est-à-dire que je filme et ensuite je fais le montage de ces choses, mais aussi je réalise. Et qu'est-ce qu'on entend par réaliser, Fabien ? C'est-à-dire.
Tu prends conscience.
Je prends conscience de ce qu'il faut faire. Mais finalement, c'est un peu ça. Tu prends conscience de, par exemple, tu as une idée de vidéo. Ça peut être n'importe quoi. J'aimerais, je sais pas, ça peut être par exemple pour un clip, j'ai une petite chanson, je veux faire un clip, et ben un réalisateur va te dire, ben moi je vois bien qu'on filmerait les choses comme ça, avec tel cadre, telle ambiance. En gros, tu mets l'idée en image.
Ok, ça c'est cool. Parle bien devant ton micro, parce que quand tu réfléchis, mais tu sais, tu peux le monter, tu peux le régler, voilà, tu peux tout.
Voilà, c'est mieux ?
Exact, c'est beaucoup mieux, c'est beaucoup mieux. Ça c'est un métier qui est assez intéressant, parce que du coup, on s'imagine assez mal, en tout cas moi, comment on peut passer de l'école du cinéma que tu as fait, tu vas pouvoir nous expliquer ça, je travaille dans ce milieu et je gagne ma vie avec. Juste une petite aparté, dans le chat, bien si sûr. Vous êtes connecté sur Storm, n'hésitez pas à réagir, à poser vos questions, je les prendrai à la fin de l'entretien avec Loïc et je lui poserai vos questions évidemment. Donc en gros, tu fais une école de cinéma.
Oui, alors c'est ce que moi j'ai fait, on n'est pas obligé de faire ça pour travailler en tant que cadreur, réalisateur ou dans la vidéo. Juste que moi j'ai fait une école de cinéma puisque quand j'étais plus jeune, donc c'est-à-dire dès mon plus jeune âge, c'est ce que je voulais faire. Je voulais faire parce que j'ai comme alors.
Bonjour, Loïc Lagarde est avec nous.
J'ai toujours été intéressé par ça parce que dès mon plus jeune âge, en fait, j'ai fait du théâtre. Ma mère était dans le théâtre aussi, donc j'étais dans ce milieu artistique et je regardais beaucoup de films et j'étais intéressé. Je trouvais ça incroyable de pouvoir raconter des histoires avec des images. Donc je me suis dit, moi, je veux faire du cinéma. Au début, c'était un peu en tant que comédien. Et après, je me suis dit, mais c'est quand même beaucoup. Enfin, moi, ça me plaisait beaucoup. Je me dis, c'est quand même fou de pouvoir raconter du coup une histoire avec des images et de pouvoir le créer. Comment ça se fait ? Parce qu'un comédien, lui, il a son texte.
Il va interpréter.
Il est acteur de la chose. Tandis que créer, je trouvais ça fou. Donc, j'ai commencé à faire des petits films et je me suis dit, je veux faire du cinéma. Du coup, j'étais pas forcément très bon élève. Et quand on m'a envoyé chez la conseillère d'orientation, elle m'a fait, alors qu'est-ce que tu veux faire comme BEP ou CAP ? Je fais, non, moi ça ne m'intéresse pas. Moi je veux faire du cinéma, je veux faire des images, je veux créer avec de la vidéo, je veux raconter des histoires avec des images. Elle m'a dit, je fais, si, c'est ça que je veux faire. Il y a cette école-là, Donc j'ai fait un peu une école par défaut, entre guillemets. Ouais. J'ai fait, bon, bah, ok, très bien, j'ai regardé. Heureusement, l'école m'a intéressé. Je suis rentré, j'ai fait mes 3 ans. Et à la base, c'est-à-dire que c'était vraiment pour faire des films, hein, des longs métrages, des choses
comme
ça.
Oui, c'est vraiment pour travailler dans le cinéma, quoi.
Qui est un milieu, comme beaucoup d'autres milieux, mais celui-là est très compliqué, puisque, et on va y venir aussi pour la vidéo, c'est un milieu, en fait, c'est beaucoup sur le relationnel. C'est-à-dire qu'il faut connaître des gens. C'est pas tant au talent ou au diplôme. En fait, tu vois, finalement, peu importe que tu... Moi, je connais plein de gens qui travaillent dans la vidéo, qui se sont auto-formés. Ouais. Et c'est pas tant un... Ça t'apprend les bases, bien entendu, c'est intéressant, puisqu'on avait des cours d'histoire du cinéma, d'où vient la lumière, c'est quoi, qu'est-ce que la lumière. Donc ça, c'est intéressant, mais c'est pas tant ça qui fait que tu travailles. Donc j'ai fait cette école de cinéma, que j'ai fini au bout de 3 ans. Donc je suis sorti à 21 ans, et j'ai fait « Ah !» Et du coup, maintenant, qu'est-ce qu'on fait ?
Donc en gros, dans cette école-là, tu vas choper des compétences, du savoir... Ça, c'est cool.
Et surtout,
c'est ce que j'allais dire après. Par contre, ton diplôme ne t'ouvre pas forcément des portes automatiques ou simplifiées dans le milieu du cinéma et de la vidéo. Donc, mais en parallèle, tu crées ton premier réseau, ton premier cercle de connaissances dans ce milieu-là via l'école.
C'est ça le plus
aussi l'intérêt. Quand je dis, moi, je ne suis pas contre le fait de faire des études, mais c'est des études utiles. Et là, si le diplôme n'est pas forcément utile... Les compétences, le savoir que tu as obtenu là-bas, associé à ton réseau, associé à ta passion pour ce métier-là, parce que je le sais, moi, pour te voir d'expérience, que tu t'auto-formes en permanence aussi sur les sujets, et ça, c'est possible que quand on est passionné par un truc, tu vas chercher tout ça là-bas, tu te retrouves derrière l'école, et là, c'est vraiment la question de comment on se dit « je vais en vivre », qu'est-ce que tu as essayé de mettre en place, qu'est-ce qui a fonctionné ou pas, quoi.
Alors... Moi, je suis sorti de l'école, c'était en 2011. Ça fait bientôt 10 ans. Donc, c'était différent à l'époque, puisqu'il y avait... Bon, YouTube existait, mais c'était... Je parle de YouTube dans le...
Oui, il n'y avait pas les créateurs de vidéos sur Internet vraiment comme aujourd'hui.
Maintenant, vraiment, beaucoup de choses... Netflix existait, mais ce n'était pas aussi...
Oui, Netflix qui, au départ, louait des cassettes vidéo, d'ailleurs.
Donc, exactement.
C'est vrai.
C'est ça qui est drôle. Donc, c'était plus compliqué. C'était encore un peu, entre guillemets, dans l'ancien...
Ouais, c'est ce qu'on appelle le tradit, quoi. Ouais.
C'était le traditionnel. Donc, en fait, ce que j'ai fait, au début, en sortant, comme j'avais fait un stage, parce qu'il fallait faire des stages pour valider ses études, j'avais fait des stages sur des longs métrages, donc j'avais encore un peu des contacts que j'essayais de faire. Ah, et t'as pas un petit boulot pour moi ici ou ça, ici ou là. J'ai réussi à travailler un petit peu sur des longs métrages. Mais c'était compliqué puisque c'était comme
tu travaillais en tant que quoi du coup, pas alors forcément dans ce pourquoi tu étais formé peut-être.
Non, parce que comme du coup mon stage de fin d'année de troisième année d'études, j'étais stagiaire décorateur, figure-toi.
Ouais.
C'était assez formateur. Ah ouais. Hein. Je sais comment faire des trous et je sais qu'il faut mettre des chevilles avant de percer.
Ah oui, non, mais sinon ça tombe et ça arrache le mur.
Mais comme c'est un milieu assez fermé, il faut connaître des gens, c'était pas facile. Et j'avais pas envie de m'enfermer, même si c'était très intéressant, j'avais pas envie de m'enfermer dans la décoration, puisque c'est des métiers aussi, malheureusement, ou en tout cas dans le cinéma, si tu rentres
en tant que décorateur, tu seras décorateur.
C'est compliqué. Ouais. Alors en fait, moi, je veux faire plutôt de l'image. Ouais. C'est compliqué. Du coup, en fait, j'ai travaillé, j'ai fait des petits boulots. Juste que j'avais réalisé un long métrage. Le mec était chaud. J'avais réalisé un court métrage.
Je n'étais pas au courant.
Non, mais. Et pour te dire que c'est que du relationnel, j'avais réalisé un court-métrage, j'avais fait une projection de ce court-métrage, et il y a des gens qui sont venus le voir, et il y avait une personne en particulier qui était un ami d'amis de quelque chose comme ça, je sais plus très bien. Il m'a fait « Ah, c'est vachement bien, moi aussi j'adore ». Par contre, moi j'ai une boîte, si tu veux, j'ai une boîte où on fait des... ils filmaient des formations...
Okay.
Pour les entreprises en interne.
Donc c'est ce qu'on appelle du B2B en fait, c'est du business to business, c'est un service de pro pour d'autres pros.
En gros c'est ça, là, je te le fais rapidement, on filmait des gens sur fond vert si tu veux, enfin, à l'époque, où ils faisaient des formations pour par exemple comment dans un magasin d'artis, comment vendre la dernière machine à laver.
Oui, qui est donc c'est vraiment du process interne, de la formation en interne.
Ouais. La formation interne. Du coup il m'a fait, moi j'ai ça comme boîte, est-ce que ça t'intéresse de bosser, j'ai fait ouais carrément. Il m'a fait très bien, est-ce que tu sais faire du fond vert, tu sais faire du montage sur fond vert, est-ce que tu as une caméra, j'ai fait oui bien entendu, ouais, j'ai tout ça
évidemment,
ça. Ouais bah très bien, bah si tu peux venir dans 2 semaines on va faire un essai, je fais carrément, et du coup
j'avais 2 semaines pour te former,
2 semaines
vraiment,
pour me former sur le fond vert, me former acheter une caméra et y aller, Donc j'ai demandé à un ami qui s'y connaissait un petit peu en fond vert, tu peux me montrer les bases, comment ça marche, que j'arrive là-bas et que j'ai l'air un petit peu compétent. mais ça, je l'ai souvent fait dans ma vie, le coup de « tu sais faire ça ?» Mm-hmm. Bien sûr, ouais. Je sais faire.
Oui, c'est quelque chose que je connais aussi. Quand voilà. Je suis allé travailler en Inde et qu'on m'a dit la presta est en anglais, ça vous pose pas de problème. J'ai fait, c'est quand ? Dans 6 mois ? Ouais, non, c'est aucun problème. Bien sûr que je fais mon spectacle en anglais souvent.
Et voilà. Du coup, je suis allé travailler là-bas. Et en travaillant là-bas, j'ai rencontré des gens qui m'ont fait travailler, qui m'ont fait, ah bah je connais quelqu'un qui cherche un caméraman. Tu connais, ça t'intéresse ? Oui, bah tu parles à la personne. Et ainsi de suite. C'est comme ça que tu développes le réseau. Et donc voilà, là j'ai développé mon réseau de freelance, c'est-à-dire avec...
C'est ça la question, c'est que du coup, par contre, c'est dans l'objectif à chaque fois depuis le départ, au départ peut-être d'être freelance, ou c'est freelance par défaut parce qu'on ne t'a pas forcément proposé un poste de salarié et qu'il faut bien travailler quoi.
Quand j'étais plus jeune, je voulais rester freelance parce que je voulais avoir cette liberté,
ouais.
Et j'avais aussi... Plus jeune, t'y penses un peu moins. J'avais pas forcément un énorme loyer. Je me disais, oui, c'est pas grave. Et puis je garde comme ça à côté. Je fais des clips à côté. Je continue d'écrire. Je continue à faire des courts-métrages, des choses comme ça. Et puis freelance. Je vais pas parler, mais j'en ai déjà parlé avec d'autres gens. Mais c'est pour ça. Freelance, ça peut gagner très très bien.
Oui.
C'est-à-dire que c'est comme tu es payé sur des journées. Tes tarots sont beaucoup plus élevés. Mais tu peux aussi ne rien faire pendant un mois ou deux, tu vois. Ça dépend de tes contacts. Ou alors enchaîner.
On a vraiment l'exemple là, durant le confinement et le Covid. J'imagine que les freelances que tu connais, qui sont amis avec toi dans ton milieu, ils ont dû tirer un peu la langue et vivre sur les réserves, là.
C'était un peu compliqué, ouais. Heureusement. Bon, ils ont eu de l'aide de l'État, mais bon, ça, ouais. C'est une autre histoire. Donc, freelance, ça peut très bien gagner sa vie. Et pour moi, je gagnais bien ma vie, puisque je commençais à avoir beaucoup, beaucoup de contrats. Et ça s'enchaînait, et on me rappelait, et après, on me recommandait. Comme j'étais pas mauvais dans ce que je faisais, on me recommandait, ça s'enchaînait, jusqu'au jour où on m'a appelé on m'a fait oui, ça t'intéresserait de donner des cours, d'être un peu formateur et en même temps travailler au YouTube Space à Paris, toujours hein, par des contacts, ouais. Des choses comme ça. Ce que j'ai fait. Après, j'ai rencontré un mec qui s'appelait Fabou.com.
Fabien Olicard. Voilà la petite histoire, c'est comme ça qu'on se rencontre au YouTube Space. Où je passe le cap des 100 000 abonnés sur YouTube, et à l'époque, en espèce de récompense, on va dire, de ce genre de choses, on avait le droit à une journée de formation en one-to-one, juste moi avec une personne dans le domaine de mon choix, pour me faire former par cette personne-là pendant une journée sur ce que je voulais. Et en l'occurrence, je voulais découvrir un petit peu, je voulais parler de colorimétrie, je voulais parler un peu de motion design, etc. Et on m'a collé avec Loïc pendant 8 heures. C'est comme ça qu'on s'est rencontré au départ.
Exactement.
T'as été mon formateur.
Exactement. Et ensuite, du coup, c'est développé le fait qu'on a commencé à... Je t'ai rappelé, puisque j'aimais bien ce que tu faisais, mais la qualité n'était pas... La qualité vidéo, hein, bien entendu.
Non, mais bien sûr, ouais, c'était une vraie marge de progression possible.
Après ta formation, j'ai regardé tes vidéos, je fais, mais ça n'a rien changé, finalement. Enfin, si, deux, trois petits trucs. Et du coup, j'ai appelé, je fais, tu veux pas que je t'aide à faire des vidéos ? Ce qu'on a fait, et je continue à travailler, mais en tant que freelance, donc avec d'autres boîtes,
côté,
avec toi,
ouais.
Je faisais des vidéos
pendant
avec toi.
Un bout de temps, en plus.
Oui, pendant peut-être un an et demi, ouais, c'est ça. Comme ça. Et puis un jour, tu m'as fait, mais tu veux pas venir faire des vidéos, travailler à plein temps, puisque ça se développait beaucoup. Et j'ai fait, en étant plus âgé, du coup, je devais avoir 28 ans, j'ai fait, ouais, finalement, je veux bien.
Oui, parce que, en fait, exactement ce qui s'est passé, c'est que quand Loïc m'a proposé de l'aide, moi, j'ai jamais travaillé avec des gens sans les payer. Peu importe le projet, que ce soit, il faut toujours trouver une manière que tout le monde puisse croquer là où il y a à croquer. Et au départ, je t'ai demandé tes tarifs, tu me les as donnés. J'ai dit alors, je me souviens avoir sorti mon téléphone pour te faire voir directement sur YouTube combien rapportait une vidéo, en disant, tu vois, c'est vraiment une économie qui est impossible. Mais parce que moi, je connaissais pas les prix d'un professionnel, et toi, tu connaissais pas les revenus de YouTube. Et comme ça, on a pu se mettre d'accord. Je me souviens, on faisait un rev share. En fait, on partageait les revenus que générait la vidéo, quoi. On faisait au plus honnête, en fait. Et après, on s'est mis à beaucoup plus travailler ensemble. Comme la chaîne a pris en qualité et que c'était cool, et ça me dégageait aussi du temps. Et ça me permettait aussi de mettre en place des projets où j'avais pas l'expertise pour les mettre en place. Donc tout ça était cool. Et après, oui, je lui ai proposé un CDI parce qu'au bout d'un an et demi, il y a une espèce de vraie question qui se pose de si demain on lui propose un contrat pour un ou deux mois, il part, moi je suis dedans et je rebaisse en qualité, etc. C'était un peu je trouvais que cet engagement commun, il était pas mal, qu'est le CDI, qui est pas une prison, hein. Encore une fois, on peut sortir d'un CDI, c'est juste l'assurance de pouvoir travailler ensemble. Et de pouvoir se retourner si l'un des deux veut arrêter, c'est une protection dans les deux sens. Donc ça, c'était cool. Sachant que, connaissant après ton parcours de freelance, moi l'ayant en tête, tu as toujours la possibilité ici de lancer tes propres projets si tu as une idée, si tu as un truc.
C'est pas une prison.
Voilà, dis ce que je t'ai dit de dire, c'est important.
c'est bon ou pas ?
Non, mais c'est important aussi de se dire on peut être freelance, trouver un CDI et en même temps garder son envie d'autonomie, de liberté, de créativité. C'est pas incompatible. Il faut juste savoir pourquoi on signe un CDI quelque part. Et dans ton parcours, que je trouve cool, c'est que avant de signer un CDI avec quelqu'un, en l'occurrence moi, mais ça aurait pu être quelqu'un d'autre, il y a eu quand même plus d'un an où tu travailles pour la personne en tant que freelance. Ça te permet aussi d'être certain à un moment donné de vouloir te poser un peu plus officiellement, on va dire, avec la personne, quoi. Et ben c'est passionnant parce que du coup, ce qu'on retient quand même en premier, c'est le... Oui, tu veux dire
un truc ? C'était juste pour compléter parce que j'ai l'impression que j'allais en parler, mais que...
Ah oui, non, excuse-moi.
C'est que... Parce que si on part du fait comment on fait quand on veut être, dans ce milieu-là, donc maintenant c'est un peu plus facile puisqu'on peut se lancer. Il y a beaucoup plus de gens qui font cadreur-monteur grâce à YouTube, entre autres. C'est beaucoup de relationnels.
Il y a même des miniaturistes.
Oui, c'est vrai qu'il y a des miniaturistes.
Des graphistes spécialisés dans les miniatures.
Et ce qu'il faut, c'est beaucoup de relationnels en fait. C'est, même si on est très bon, on peut se faire remarquer, mais il faut connaître des gens. Tu connais telle personne, fais, je vais parler avec telle personne. C'est que ça, même si t'es très bon, mais t'es dans ton coin, tu parles à personne, t'y arriveras pas. Même si t'as fait telle école, c'est pas si grave. Moi, je connais plein de gens qui ont fait des écoles, qui ont des diplômes, mais qui travaillent pas parce que, en fait, c'est que c'est vraiment, je pense que dans ce métier-là, après, faut être bon, pour qu'on te rappelle. Mais si tu veux, entre guillemets,
le point d'entrée,
c'est faut connaître quelqu'un qui va te faire. Mais aussi, il faut démarcher à ce moment-là. Moi, c'est ce que je faisais.
C'est ça.
J'envoyais aussi quand même beaucoup. J'envoyais beaucoup de mails dès que je pouvais. Salut, je m'appelle Loïc, voilà ce que j'ai fait. Donc tu envoies ce que tu as fait, des montages, ce que tu as cadré, des images à toi, voilà ce que j'ai fait. La plupart du temps, c'était désolé. Je trouve que c'est assez rare dans ce métier quand tu te proposes spontanément qu'on te donne une réponse positive. Mais je me proposais et ensuite c'est du relationnel.
Et puis ça se stocke aussi. Nous, on est contacté parfois par des gens à compétences, on va dire. Et c'est pas bon pour le moment, mais on le met de côté. Mm-hmm. Et des fois, on se dit, tiens, si on a besoin, genre, on pourra appeler lui. On avait fait travailler des personnes sur un tiers grise comme ça aussi.
Sortez des codes.
Oui, bien sûr. Mais ça me rappelle un peu le parcours de mes régisseurs son et lumière du spectacle, en fait. C'est un parcours relativement similaire. Quand tu parles de réseauter, etc., de se proposer, là où je peux appuyer ce que vient de dire Loïc, c'est la manière dont il s'est proposé à moi au départ. C'était pas du mail, du coup, c'était à l'oral. Mais en vrai, tu m'as proposé 3-4 fois, en fait. Mais de manière très smooth, où tu demandais, ça parlait pas de prix. C'était plus, si tu veux déjà un coup de main, qu'on en parle de ta chaîne ou de machin. Et c'est au bout de... si tu n'avais pas fait ça 3-4 fois, j'aurais pas déclenché le... Puisque moi, je me disais, j'ai pas les moyens d'avoir un pro encore pour ça. Tu vois ce que je veux dire ? Donc c'est très important, le relationnel. En fait, le réseautage est un mot presque limitant. Le relationnel est encore plus intéressant parce que ça veut dire que c'est réseauté mais sans forcer l'obtention de quelque chose.
Parce que c'est aussi un métier où tu vas te prendre beaucoup de refus.
Oui, c'est ça. Et puis si tu te fais contacter par quelqu'un où tu sens qu'il veut tout de suite te prendre, c'est pas très agréable et on a tendance à le fuir. Alors que si toi, tu fais ton relationnel, c'est-à-dire tu discutes avec la personne, tu lui dis ce que tu sais faire, ce que tu peux faire, etc., ou ce que tu peux chercher au global, mais sans le taquiner sur « donc vas-y, appelle-moi, quoi, hésite pas, nanana ». Tu sais, ce truc un peu qui fait fuir, en fait.
Tu te sens bien, ça va, merci.
Je crois qu'il faut vraiment pas forcer son réseau, il faut juste avoir des relations saines avec les personnes et que ces personnes connaissent en fait ton existence, tes capacités, tes compétences. C'est vraiment la première étape. Et puis, il faut aussi avoir une forme de résilience. On l'a vu pour les premiers jobs que tu faisais, c'était pas forcément ce pour quoi tu avais signé, etc. Mais il faut bien aussi commencer à rencontrer des personnes. Mmh. Et le meilleur moyen, c'est d'aller sur le milieu pour faire pas forcément ce que tu veux faire tout de suite, mais déjà rencontrer les personnes. Et puis en même temps, je crois que cette résilience-là, elle permet aussi de voir les autres travailler, de voir aussi comment ça se passe. Bon, tu l'avais vu durant tes stages, mais ça donne aussi un peu des codes, je trouve, pour s'intégrer dans le milieu. Et quand on a les codes, on a un meilleur relationnel encore avec les personnes. Et puis ne pas hésiter aussi parfois à se mettre en danger, si on sait se donner les moyens de se mettre en danger. Et là, c'est ton exemple du fond vert, de dire « ouais, je sais faire, c'est dans 15 jours ». Là, tu te mets en danger, c'est super, mais après, tu te donnes les moyens de, le jour J, que ton mensonge soit une vérité, quoi. T'as eu 15 jours pour appeler les bonnes personnes, regarder les bonnes vidéos, faire des tests toute la nuit en tapant sur ton clavier en t'énervant pour après, au bout de 15 jours, être à l'aise avec ça. Donc la mise en danger, c'est toujours une bonne chose, mais ne jamais oublier, est-ce que j'ai la capacité, l'énergie et la hargne pour me dire cette mise en danger, elle sera pas pour rien par contre, elle sera couronnée de succès, quoi, si possible, quoi. Est-ce que j'ai bien résumé ta vie ?
Je pense que tu as tout à fait bien résumé.
Eh bien, je vais regarder un peu ce que dit le chat parce que je suis sûr qu'ils ont des questions pour toi.
Ah. Mais sinon, que dit le chat ?
Que dit le chat ? Le chat était très à l'écoute, pas trop bavard aujourd'hui. Il y a des personnes qui te saluent, Loïc. Il y a Camille qui nous dit « Je vais aller en école d'audiovisuel à la rentrée ». Eh bien, du coup, ça c'est cool. Emeline qui dit « Moi, ça me parle. Très beau métier, Loïc, parce que j'ai le même. »
Ah,
donc, on a pas mal de personnes dans le milieu qui écoutent. Il y a Antoine qui dit « Après les clips, les cours, les sketchs, quels sont tes projets en cours ? Réal, auteur d'un long-métrage ou d'une série, par exemple ?» Eh bien, je te pose la question parce que je n'ai pas la réponse.
Alors, un instant. mes projets en cours, déjà, je suis pas mal occupé avec ce qui se passe au bureau, toutes les vidéos qu'on a à faire. On a pas mal de... Alors, je peux pas dire grand-chose, mais on a des projets en cours qui sortent du cadre vraiment vidéo YouTube. Enfin, ce sera pour YouTube, mais c'est...
Mais pour tendre un peu vers de la fiction, ce genre de choses.
Un peu de la fiction. Moi, je suis toujours en écriture. Alors, de long métrage, non. Peut-être un jour, j'aimerais le faire. Je le garde toujours dans un coin de ma tête. Mais j'aimerais faire plusieurs courts-métrages, des courts-métrages plus ambitieux pour ensuite peut-être...
Les amener en festival,
montrer. Puis pour se faire la main, puisque j'ai fait déjà... J'en ai fait pas mal de courts-métrages.
Et puis il y a ceux qu'on peut encore voir sur le Nikon Festival.
Ouais. Certains Nikon Film Festival, mais après c'est des films de 2 minutes 20 avec une contrainte. C'est un peu frustrant par contre.
Mais c'est pas mal parce que ce festival donne toujours une deadline pour produire quelque chose, c'est intéressant.
Ça c'est bien. Donc j'ai des projets et nous vous tiendrons au courant.
Il y a Raph qui dit, tu es allé dans quelle école de cinéma ? Oui, c'est vrai qu'on n'a pas cité l'école, si tu veux bien
l'adresse. J'ai fait l'ESRA à Paris, l'école supérieure de réalisation audiovisuelle.
Et il y a Diane de Poitiers qui nous dit, pour avoir un réseau et que les gens te retiennent, il faut épaissir son personnage, même en bossant bien, on n'est pas tous charismatiques. Oui, c'est vrai, mais on n'a pas besoin de séduire nécessairement les gens, au contraire, je pense qu'être soi-même, c'est mieux, mais il faut, par contre, oui, améliorer un peu son sens du contact, ça c'est sûr, mais on n'est pas forcément dans la séduction, le but n'est pas de fasciner l'autre. C'est intéressant d'épaissir son personnage, là c'était plus pour les freelances, un peu plus business classique, mais dans le cadre de Loïc, je trouve que c'est différent, les personnalités plus la compétence se suffit à elles-mêmes. Par exemple, je préférerais toujours travailler avec un cadreur, monteur, réalisateur comme Loïc qui, sur un tournage, sait se faire discret parce qu'il est dans son truc et sa compétence, plutôt que de quelqu'un de trop volubile qui va prendre beaucoup de place alors que c'est pas ce qui est attendu de lui. Donc, il y a aussi des codes internes, des choses comme ça. Est-ce que tu veux réagir à ça ?
Je voulais dire que je vois ce que... Qui avait posé la question ?
Diane de Poitiers.
Diane, je vois ce que tu veux dire, Diane, mais pour le contre-exemple, j'ai plein d'amis qui travaillent très bien, qui sont rappelés très souvent, qui, au contraire, sont pas forcément... Alors, je ne dis pas qu'ils ne sont pas charismatiques, mais qui se font très discrets, c'est-à-dire qu'ils sont très professionnels, ils arrivent sur le tournage, bonjour, comment vas-tu ? Hop, il fait son travail, tu viens lui parler, il te répond... normalement, tout va bien, ouais. il va pas faire des blagues tout le temps ou se montrer, sauf que comme il travaille très bien, et c'est ce que tu as envie sur un tournage, c'est quelqu'un qui travaille bien, qui soit à l'écoute, qui soit efficace, et ben les gens le rappellent, et il se fait du réseau parce que, ah ben ouais, c'est lui, alors lui quand il arrive sur un tournage, tac tac, il est efficace, il est quand pas là, aller à droite à gauche, de faire des blagues, voilà quoi.
Ouais, c'est vrai, non, c'est intéressant.
C'est pas tant une question de charisme, moi à la base je suis quelqu'un de très timide. À la base.
Moi,
ça va mieux maintenant.
Moi,
j'ai réussi. Hein, quand j'ai commencé, j'étais très, très timide.
Oui, mais même quand je te rencontre, tu étais encore un peu plus timide que ça.
Oui, oh.
Tu me vois encore. Hein. Ouais. Il y a une personne dont je n'ai pas le nom qui te félicite pour la qualité des vidéos. Il y a Emeline qui dit, est-ce que tu as des réalisations, fictions que l'on pourrait voir en ligne ? Alors, il y a donc celle sur le Nikon Film Festival.
Oui.
Je pense que si on cherche Loïc Lagarde en tant que réalisateur, on va te trouver.
Oui. Tu peux essayer, j'avoue que j'ai pas essayé en tapant juste mon nom si on voit des choses. Je sais pas comment je pourrais. Il y a des films.
Tu as les liens, toi ?
J'ai les liens.
Alors, vous savez quoi ? D'ici quelques minutes, je le mettrai sur le Linktree de l'Hippocampe. C'est linktr.ee/olicard. Je vous mettrai les différents liens que Loïc me fournira. Comme ça, vous pourrez voir un petit peu ce qu'il fait en fiction à côté. Et puis il y a les clips aussi que tu fais.
Oui, quelques clips aussi, si tu veux voir.
Parce que tu as fait quand même pas mal de clips, mine de rien. En plus, qui sont intéressants parce qu'il y a eu quelques cas où il n'y avait pas masse de budget. Et qu'il
j'en ai fait à 0 euro.
Eh oui, c'est ça. Il faut avoir des idées créatives, du coup, pour pouvoir faire quelque chose, produire quelque chose de qualité. Donc, c'est assez passionnant.
Un que tout le monde peut voir, c'est celui de Céline H.
Ah oui, Icône, bien sûr.
Icône, ouais. Sur la chaîne de Céline H. Ouais.
On n'était pas sur un gros budget, parce que je le sais, c'est moi qui l'ai financé. Mais,
ça, c'est
mais
visible rapidement.
Vous avez pu faire un truc, je dis vous, parce que je pense au gars que tu as pris avec toi. Hein, mais parce qu'il y a aussi le fait après de monter son équipe, mais ça, on pourra en reparler sur la gestion des équipes. Il y a Valentin Douze qui dit « Parcours très intéressant et très inspirant, bravo ». Eh bien, je trouve que c'est une belle clôture du chat,
c'est
parce que ça veut dire
que
c'était intéressant. Même moi, j'ai appris des choses sur toi.
Eh ben, dis donc.
Mais sinon, que dit le chat ?
Merci beaucoup Loïc d'avoir été le premier à ouvrir rendez-vous. Loïc, je te donne rendez-vous la prochaine fois. Merci beaucoup à vous d'avoir écouté l'Hippocampe. On se retrouve demain à midi pour l'enregistrement sur Storm. Soutenez l'Hippocampe en vous abonnant au podcast, en laissant votre plus belle notation. Vous êtes les ambassadeurs, ça soutient fort le podcast. Rendez-vous demain à midi. À très bientôt, ciao.
L'Hippocampe, faites tremper votre cerveau à midi, du lundi au samedi, en direct sur Storm et à 13h sur toutes les plateformes. We'll be right back.